Bonjour chers auditeurs, merci d'être là, merci pour les écoutes, merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, merci pour les commentaires que vous pouvez mettre sur vos plateformes d'écoute de podcast, merci pour votre soutien. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, me soutenir en vous abonnant aux formules Papatriarcat Plus qui vous permettront d'accéder à du contenu sans publicité et du contenu bonus. Les liens sont en description des épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, nous allons parler de contraception masculine. Alors, pourquoi ce sujet dans ce podcast ? Eh bien parce que quand on se parle, comme nous avons pu le faire dans les épisodes précédents, de la charge mentale, la charge du foyer, il y en a une qu'on oublie extrêmement souvent, tellement il est évident pour nous toutes et nous tous qu'elle doit être la charge des femmes, c'est la charge contraceptive. Et pourtant, qu'est-ce qui indiquerait que la partie de la population qui est fertile uniquement 4 jours par mois devrait supporter à elle seule cette charge, alors que l'autre partie de la population, c'est nous les mecs, nous sommes fertiles 365 jours par an. C'est devant ce constat que je me suis dit qu'il était important d'aborder le sujet. Pour m'aider dans cette tâche, je vais être accompagné de Fabrice, que vous connaissez sûrement par son passage chez Mademoiselle, par ses podcasts Histoire de Daron, Histoire de Succès, Histoire de Mec. Mais le sujet pour lui aujourd'hui, ça va être de nous parler de sa vasectomie. Et nous avons aussi Erwan, du collectif Garcon, qui milite activement pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux méthodes de contraception masculine, dites thermique notamment, et il va aussi pouvoir nous permettre d'en apprendre plus sur la méthode de contraception hormonale. Dans un premier temps, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous présenter le collectif Garcon. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Alors Garcon, groupe d'action et de recherche pour la contraception. On a créé l'asso il y a maintenant tout juste un peu plus d'un an. Ça s'inscrivait dans une dynamique où il y a déjà plusieurs collectifs et assos qui existent. Là, l'idée, c'était de réunir des savoirs et savoir-faire qui étaient un peu éparpillés, de les mettre en œuvre dans une même ville, de documenter tout ce qu'on faisait pour rendre ça transposable dans notre ville. Notre porte d'entrée, c'est les méthodes de contraception dites masculines, parce que sur les autres méthodes de contraception, il y a d'autres assos, notamment le planning familial, qui fait déjà un super boulot. Donc nous, à la base, l'idée, c'était quand même de proposer une asso qui implique davantage les gars pour leur propre contraception, tout en restant ouverte aux meufs, parce que elles ont une expertise sur la question, c'était important aussi qu'on puisse avoir leur retour. Et en fait, il se trouve que comme 2/3 de notre public est constitué de meufs, on a de plus en plus fait en sorte de leur proposer des activités qui les concernent directement. À savoir qu'on a un atelier couture qui, à la base, sert à pouvoir fabriquer ses propres dispositifs contraceptifs, mais aussi de parler de l'ensemble des différentes méthodes, des enjeux qu'il y a autour, d'apprendre à se servir correctement de ces dispositifs. Et très vite, on a élargi ça à la fabrication de serviettes menstruelles lavables pour éviter que les meufs se retrouvent à coudre les dispositifs contraceptifs de leurs partenaires. Et puis, du coup, voilà, en fait, il y a cette approche a beaucoup parlé et notamment dans les présentations qu'on pouvait faire. On avait aussi un discours qui était également directement orienté aussi vers les meufs et pas que vers les mecs. Et ça a fait que cet asso qui se veut aussi être un outil où on peut mettre tout ce qui correspond à notre charte. On est vraiment très pro-choix, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens pour qu'ils aient un éventail de possibles et que chaque personne puisse faire les choix qui le ou la concernent. Nous, on est simplement là pour aider. Donc ça fait que, notamment, on est aussi en train de mettre en place des ateliers mat-tachat. Donc, c'est, pour faire simple, c'est des ateliers, des cercles de parole entre meufs et qui peuvent déboucher sur un atelier enfin, ouais, l'auto-observation, l'auto-gynécologie.
Mais c'est génial.
Ouais, ça intéresse
Mais c'est
énormément
génial.
aussi. Et donc, là encore, on voit qu'il y a énormément de demandes. Donc, on documente les outils qu'on a utilisés pour pouvoir mettre ça en place pour que d'autres gens puissent se les approprier et faire ça ailleurs.
C'est super, donc en plus, c'est-à-dire que vous rendez ça accessible, public, il n'y a pas de frais à payer ou de formation à suivre payante, je veux dire, c'est ça?
Non, non. Bah, par exemple,
C'est
sur notre
totalement
atelier
open.
couture, nous, on explique que voilà, il y a un coût matériel, hein, puisqu'il faut fournir la matière première, il y a du matériel
Bien
de
sûr.
couture, etc. Et donc, on explique qu'en gros, pour 5 euros par dispositif, que ce soit un dispositif contraceptif ou une serviette menstruelle, on arrive à la fois à couvrir les frais de matière première et d'entretien du matériel. Mais voilà, c'est indicatif. S'il y a des gens qui sont dans une grande précarité et qui ne peuvent rien donner, on sait qu'il y a d'autres gens qui vont donner davantage. Et donc, on arrive comme ça à faire tourner l'atelier.
C'est fort, hein. C'est fort comme initiative,
Ouais,
j'adore.
c'est chouette.
Et si je comprends bien, pour le coup, t'as des mecs qui cousent des serviettes menstruelles, c'est ça,
Alors, ils peuvent
pour leur
coudre des
meuf?
serviettes menstruelles ou elles peuvent venir directement le faire et c'est intéressant de pouvoir échanger des savoir-faire, mais aussi ouvrir à tout un tas de sujets de conversation qu'on va pas forcément avoir l'habitude de mener, et encore moins avec des inconnus. Et ça peut aussi sortir des choses très très intéressantes. À la base, l'idée, c'est vraiment que quelqu'un qui a envie de fabriquer son dispositif contraceptif, donc qu'on appelle jockstrap, puisse se le fabriquer soi-même à ses propres mesures pour se sentir bien dedans, apprennent à s'en servir co correctement, comprennent vraiment tout ce que ça implique, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de soi, mais aussi de ses partenaires, et puis du développement de la méthode en général, parce qu'il faut que ça reste crédible, et donc il faut vraiment utiliser ça correctement. Et puis aussi pouvoir personnaliser ça, hein. On essaye de laisser de la place aussi à la créativité pour que les gens se sentent vraiment bien avec le dispositif qu'ils ont fabriqué.
Le jockstrap, c'est de la contraception thermique, c'est ça?
Ouais.
C'est marrant. Alors, je vais te demander de nous expliquer parce que moi, en fait, j'ai plein de questions dessus. Je m'étais un petit peu renseigné. Et je sais que alors, tu vas pouvoir me faire le vrai du faux. Parce que pour tout te dire, en bon mec, hein, en bon mec de base, si tu veux, qui réfléchit pas trop des fois quand il parle, j'en avais parlé à ma meuf et je lui avais dit ouais, mais bon, t'as vu, visiblement, faut y penser tous les jours, quoi. Ça doit être bien chiant. Elle m'a fait un regard, mon gars. Du genre, non, mais tu te fous de ma gueule, tu vois. Et a raison, et a raison, il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, pour le coup, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est la contraception thermique, s'il te plaît? Et je te donne déjà les petites billes, moi, que j'ai de questions, parce que les questions que je me suis posées, c'est est-ce que si je l'oublie un jour, c'est dramatique, est-ce que tout s'arrête, est-ce qu'il faut tout reprendre? Pour le coup, est-ce qu'il faut tout reprendre? Parce que ça prend du temps, apparemment. Voilà, c'est des petites questions comme ça, tu vois, mais je pense que tu as l'habitude qu'on te les pose, donc
Oui.
explique-nous, s'il te plaît.
Alors, bon, déjà à savoir, on a mis sur notre site internet garcon.link un petit dessin animé qui montre comment est-ce qu'on enfile ça, comment est-ce qu'on le retire. On a également mis des vidéos pour les gens qui veulent vraiment voir un peu plus que ça encore, où on montre comment, en fait, dans tous les cas, quel que soit le dispositif, en gros, on va avoir un anneau dans lequel on passe la verge. Ensuite, on va faire glisser le scrotum dans cet anneau. Les testicules n'ont pas la place de passer puisqu'il y a déjà la verge, et donc ça les oblige à remonter un peu plus haut dans ce qu'on appelle les canaux inguinaux. Et donc ça vient situer, voilà, à la base de la verge, derrière les poils pubiens. Et donc à cet endroit-là, les testicules se retrouvent à être à 36-37 degrés Celsius, alors que d'habitude dans le scrotum c'est plutôt à 34. Et donc, si on les chauffe comme ça légèrement tous les jours, pendant au moins 3 mois, 15 heures par tranche de 24 heures, de préférence les heures d'éveil, c'est-à-dire du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, ben là, on arrête la production de spermatozoïdes, ou en tout cas, on la ralentit tellement fortement que le peu de spermatozoïdes qui peut rester sont complètement trop peu nombreux pour qu'il puisse y avoir fécondation. Donc, il y a un slip qui a été proposé par le docteur Mieucet, et il essaye d'industrialiser la fabrication pour pouvoir faire un essai clinique à grande échelle à l'échelle européenne pour pouvoir en faire un dispositif médical reconnu. En attendant, comme tout ça, ça prend du temps, ben, y a un collectif breton, les Thomas Boulou, qui ont travaillé sur l'autofabrication, et c'est comme ça qu'on est arrivé au jockstrap, que nous, on est en train de rendre de plus en plus accessible en proposant de mettre en place dans la ville où vous êtes un atelier couture. On vous accompagne pour mettre ça en place. Et puis, il y a un infirmier qui propose un anneau en silicone qui repose sur le même principe, hein, et qui lui est maintenu simplement par adhérence du silicone sur la peau. Et donc, chacun de ces dispositifs a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le jockstrap, bah, il faut le fabriquer. Alors certes, ça peut rebuter a priori, sauf qu'en fait, c'est quand même super intéressant de pouvoir déjà avoir une grosse autonomie là-dessus, d'une part, parce que vous ne tomberez pas en rade, vous saurez comment vous en fabriquer un s'il y a besoin. Ensuite, ça permet de vraiment de pouvoir prendre le temps de bien apprendre à s'en servir, de comprendre tout ce qu'il y a derrière, d'être en contact avec des gens qui utilisent déjà. Et ça, je pense que c'est vraiment super important d'avoir un dispositif vraiment sur mesure dans lequel vous allez vous sentir bien, parce que comme vous allez le porter tous les jours, toute la journée, c'est vraiment important de se sentir bien avec ça. L'anneau en silicone, justement, on voit qu'il est beaucoup plébiscité. Il y a beaucoup de gens qui se sont précipités dessus. Et ça peut vraiment poser des difficultés. Nous, les retours qu'on a, c'est des gens qui n'ont pas lu les informations qui vont avec notamment, il faut pas l'utiliser si on a une torsion du cordon spermatique. Ben là, voilà, il y a quelques jours, on avait quelqu'un qui dit, ben, en fait, j'ai commencé à l'utiliser, ça me fait super mal, torsion du cordon spermatique, il faut surtout pas, quoi. Donc, il y a un problème d'accompagnement avec l'anneau. Le fait aussi qu'en fonction des anatomies, ça va tenir plus ou moins bien. Donc, moi, par exemple, je l'utilise un petit peu, cet anneau, mais seulement le matin, quand je commence à me réveiller et que je somnole encore et que je suis dans mon lit, je bouge pas trop. Il est facile à enfiler et c'est bien pour démarrer très tôt mes 15 heures. Par contre, la journée, avec le frottement des vêtements, tout ça, il redescend un petit peu. Les testicules redescendent également, sont moins bien chauffés, donc je ne l'utilise pas en journée. C'est pas grave, moi j'ai mon jockstrap qui me maintient très bien, avec lequel je suis très à l'aise. Il faudrait surtout pas que des gens pour qui ça tient pas bien soient tentés d'utiliser un anneau plus petit, parce que ça risque du coup de comprimer toute la vascularisation de la verge, quand on fait ça tous les jours, toute la journée, à long terme. Et puis il y a aussi le fait que le silicone, ça ne n'évacue pas bien la transpiration, donc on a des retours de gens qui ont des problèmes cutanés, qui essayent de mettre des crèmes hydratantes pour régler le problème. Mais enfin, voilà, clairement, ça a l'air plus simple d'acheter un objet tout fait sur Internet, qui a l'air hyper sexy, hyper pratique à utiliser. Dans les faits, c'est bien de pouvoir jongler avec les dispositifs. Moi, je suis très content d'avoir le jockstrap en journée, l'anneau pour le matin, et c'est un peu comme les meufs qui jonglent entre les différents dispositifs quand elles ont leurs règles. C'est bien des fois d'avoir une moon cup, des fois c'est plus intéressant une serviette, un tampon, etc. Ça dépend vraiment des situations et des personnes. Donc c'est vraiment bien d'essayer les dispositifs et d'apprendre à jongler avec ce qui existe pour trouver ce qui s'intègre bien dans le quotidien.
C'est ultra intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Fabrice.
C'est beau 2020, j'allais dire, tu vois.
Ah non,
Ce
mais c'est.
qui est dramatique, c'est que je pense que c'est un système qui existe depuis super longtemps, mais que personne n'en a jamais parlé avant, quoi.
Alors, le docteur Mieucet, lui, ça fait plusieurs décennies, hein, cette idée-là, elle date de la fin des années 70, tout début des années 80.
Ah ouais, putain, c'est beau.
L'idée était là, après, on manquait pas mal de recul. Et donc, il fallait vérifier que ça pouvait être efficace, réversible, trouver des dispositifs confortables, pas trop compliqués à fabriquer. Tout ça a pris beaucoup de temps, d'autant plus que bah, il a eu très peu de moyens pour faire tout ça. Donc, même si l'idée existe, ça a été long à développer. Et clairement, là, les collectifs bretons, ça fait déjà plusieurs années qu'ils bossent sur les différents dispositifs. Ça date d'il y a un an, le fait d'avoir vraiment un dispositif vraiment facile à fabriquer, qui s'ajuste facilement, etc. Il a fallu qu'on gagne un petit peu en savoir-faire là-dessus.
Merci
Ah,
les
c'est tout
Bretons.
neuf, quoi. C'est tout neuf, quoi. Non, mais c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Et pour le coup, ma question c'est, sur l'utilisation, c'est... Donc, j'oublie de le mettre un jour. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, aujourd'hui, le docteur Mieuxet, il est hyper prudent. Et il dit, voilà, moi, avec les essais que j'ai pu faire, je ne garantis l'efficacité du protocole que si on se tient à 15 heures par tranche de 24 heures pendant les heures d'éveil, et qu'on fait ça vraiment tous les jours. Sans doute que certaines personnes peuvent réussir à avoir ce seuil contraceptif en étant moins rigoureuses sur ce protocole, sachant quand même qu'il a constaté que dès qu'on passe en dessous de 14 heures, là, il y a vraiment quelque chose qui se remet en route. D'accord. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas jouer avec ce nombre d'heures. C'est vraiment un élément déterminant pour la réussite de la méthode. Il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, la nuit, je le sentirais moins. » Et du coup, je préfère utiliser d'abord essentiellement les heures de nuit et compléter avec les heures d'éveil. C'est pas bon. C'est pas bon parce que naturellement, la température des testicules augmente la nuit. Donc, l'effet contraceptif est moins bon.
Ah.
En plus, Si pour une raison ou pour une autre, dans la nuit, le dispositif bouge, ou qu'on le retire sans s'en rendre compte, ça peut arriver. Moi, j'ai fait des tests, je me suis rendu compte que ça arrive. On ne sait pas combien d'heures on a loupé. Et donc voilà, tout ça, ça peut vraiment poser des vrais problèmes. Il vaut mieux trouver une manière de faire qui fait que pendant les heures d'éveil, on se sent bien, et se tenir à ça. D'autant plus que clairement, moi par expérience, je le vis beaucoup mieux pendant les heures d'éveil, parce que de toute façon, la journée, j'ai des vêtements qui vont frotter sur moi, mon cerveau, il est stimulé par plein d'autres choses, ce qui fait qu'en fait, ça passe complètement inaperçu, ce dispositif en journée. Alors que la nuit, notre corps, il est beaucoup moins stimulé, notre cerveau, il peut être très attentif à ça, et la moindre petite perturbation, on va y être beaucoup plus sensible. Donc voilà, en fait, on a des idées préconçues en se disant ça va être plus compliqué la nuit, plus compliqué la journée, plus simple la nuit. En fait, c'est exactement le contraire. Donc, il faut vraiment, plutôt que de projeter des a priori, il faut tester le truc. Si on se sent bien avec, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on peut retravailler un petit peu les dispositifs. Si ça ne suffit pas, il faut changer de méthode. Mais si on n'est pas à l'aise avec ce protocole-là et qu'on essaye de mettre les choses un peu à notre sauce, eh bien, en fait... c'est nos partenaires qui peuvent essuyer les plâtres. Parce qu'en plus, il faut savoir quand faire des spermogrammes. Il ne suffit pas d'avoir fait un spermogramme à un moment pour savoir que ça fonctionne bien. En fait, voilà, on évite de jouer avec la limite. Ce que dit le docteur Mieuxet, c'est que si on ne peut pas avoir toutes ces heures à un moment, eh bien, ce qui n'arrive pas, hein. J'en parlerai après, mais ça n'arrive pas. Si c'est ça, eh bien, on va utiliser un autre mode de contraception pendant un mois, refaire un spermogramme de contrôle. Si on est passé sous le seuil contraceptif, c'est bon. Mais en vrai, ça n'arrive pas. Moi, ça fait 4 ans que je l'utilise tous les jours. J'ai un ami qui l'utilise depuis 8 ans. Toutes les personnes que je connais, ça ne leur arrive pas. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on intègre dans notre quotidien. C'est tous les jours, en fait, on s'habille. Enfin, c'est moins compliqué que d'enfiler un sous-vêtement le matin et de le retirer le soir que de penser à un moment de la journée d'avaler une pilule. Après, vous allez me dire, ouais, mais voilà, j'ai fait une grosse chouille, le lendemain, j'ai la tête en vrac, je me réveille pas. Et ben, dans ce cas-là, retirez pas votre dispositif. Dormez toute la nuit avec, s'il faut. De toute manière, vous êtes parti à l'ouest, vous n'allez pas le sentir, vous vous réveillerez avec, vous aurez vos heures. Et puis voilà, moi, ma partenaire, elle a appris à m'enfiler l'anneau en silicone. Donc voilà, ça arrive qu'elle voit que j'ai besoin de dormir le matin, et ben, elle me l'enfile, elle regarde l'heure, et c'est parti, quoi. Donc ça aussi.
J'allais dire, c'est quand t'es trop torché, mais non, c'est bon. J'allais dire, c'est quand t'es trop torché, non, c'est bon, ça peut marcher aussi comme ça.
Ça peut marcher. Ça peut marcher, ouais.
Mais c'est juste une autre habitude, en fait, tout simplement. Ouais. Mais je pense que votre plus gros défi, c'est d'aller justement à l'encontre de préjugés qui datent de centaines de milliers d'années, quoi. Et effectivement, où tu te dis, bah, la contraception, c'est pas un truc de mec. là, d'un coup d'un seul, ça finit par redevenir un truc de mec où tu te retrouves à avoir une responsabilité dans la contraception, tout simplement, quoi.
Non, mais c'est ça. Tu vois, moi, c'est exactement le truc que je suis en train de dire, c'est que j'ai du mal à me projeter, mais parce que je suis tellement... Tu vois, on m'a tellement construit dans ma tête. J'ai pas les câblages encore, tu vois, donc il faut... Mais par contre, ça me donne gavé envie, ce que tu dis. Mais tu vois, comme j'ai pas les câblages, il faut vraiment se dire, allez, mais c'est juste enfiler un caleçon. Enfin, tu vois, c'est ce que je me dis. Tu t'habilles tous les matins, tu le disais tout à l'heure, Fab. Tu t'habilles tous les matins, tu le disais aussi, Erwan. Enfin, c'est aussi simple que ça. Question très pratico-pratique qui m'est venue là pendant que tu parlais. Et au niveau d'éléments un petit peu plus occasionnels ou saisonniers, comme la plage, comme la piscine, comme comment ça se passe avec un jockstrap, avec cette méthode-là?
Alors le jockstrap, il peut tout à fait se conserver quand on va se baigner, parce que c'est que du tissu synthétique, et puis il y a un petit l'anneau, on le fait avec une chaussette qui est roulée, qui elle est en coton. Mais en vrai, voilà, personnellement, moi, ça me dérange pas. S'il y a des gens que ça dérange, c'est facile d'avoir un autre jockstrap de rechange et du coup de pouvoir se changer le temps qu'il sèche vraiment complètement. Il y en a qui aiment bien utiliser l'anneau en silicone aussi. Là aussi, à voir, parce que le fait que ce soit mouillé, il peut avoir tendance à moins bien tenir, mais ça dépend vraiment des personnes. Il faut vraiment essayer pour, comme je disais tout à l'heure, il faut essayer les dispositifs, trouver ce qui nous convient. En tout cas, voilà. Moi, pour le moment, j'ai pas encore de retour de personnes qui n'ont pas trouvé de solution simple par rapport à ça. Franchement, je pense que c'est carrément moins compliqué d'intégrer ça dans notre quotidien que les femmes qui se débrouillent pour jongler avec leur dispositif menstruel.
Ah non, mais c'est ça je te rejoins. Hein. En fait, c'est qu'en même temps, quand tu commences à imaginer, moi, je t'explique ce qui se passe dans ma tête, c'est quand tu commences à imaginer la gymnastique, tu vois, là, que ça me demande, je me dis aussi, putain, mais ma femme, elle subit ça depuis 15, 20, 30 ans. Enfin, tu vois, c'est ouf, en fait, de se rendre compte de ça, tu vois.
Je vois que t'as des lunettes. Moi, ça fait 30 ans que je suis censé porter des lunettes, 30 ans que j'y arrive pas. Bon, là, vu mon âge, je vais essayer, je vais aller chez l'ophtalmo demain. Mais pour moi, les lunettes, c'est hyper compliqué à intégrer dans le quotidien, vraiment.
Ouais.
Et bien, clairement, voilà, moi qui suis très réfractaire à ce genre de choses, je suis incapable de porter une montre, des bijoux, etc. Pour moi, c'est vraiment la galère, quoi. Le jockstrap, c'est hyper facile.
Et quand on veut, pour le coup, redevenir fécond, on l'est sous quel délai? Comment ça se passe?
Alors,
tu parles aussi de passer des spermogrammes, je crois.
Ouais. Il faut considérer qu'on est de nouveau potentiellement fécond tout de suite. Okay. Là, il faudrait que je rentre un peu plus dans les détails. Même si on est potentiellement fécond tout de suite, il faut utiliser un autre mode de contraception pendant les 3 mois qui suivent l'arrêt. Parce que les premiers spermatozoïdes qui sont fabriqués, on n'a pas eu la possibilité pour le moment de faire des études pour savoir si la qualité de l'ADN de ces premiers spermatozoïdes est suffisante. Donc, dans le doute, par précaution, on va laisser passer un cycle de fabrication de spermatozoïdes qui dure 3 mois.
D'accord.
Et donc, voilà. Après, il est arrivé justement sur... Il y a déjà un bon nombre d'années au cours des premiers essais. Un couple qui n'est pas justement bien compris ce protocole de sortie.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il pensait justement continuer à pouvoir bénéficier de cet effet contraceptif pendant les 3 mois qui suivaient. Donc, ils n'ont pas pris de précaution. Il y a eu une grossesse qui a été déclenchée. Et elle a été poursuivie. Et la gamine qui est née se porte très bien. Mais... on ne sait pas si ce serait le cas pour tout le monde.
Voilà. Ouais.
Donc, pour le moment, par précaution, pendant 3 mois, on utilise autre chose.
Comme des fois, on aime bien utiliser des mots compliqués, on n'a pas d'études longitudinales sur le sujet.
C'est ça. Et okay. Après, bah, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, un bonhomme qui a une spermatogénèse qui fonctionne bien, il a plus de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre. Ça peut monter jusqu'à 150, 200 millions. En tout cas, voilà, il en a plus de 20 millions. Et peu importe justement qu'il en ait 40 ou 120 millions, dès qu'on passe les 20 millions, tout le monde est fertile à peu près de la même manière. Ça veut dire qu'on va passer tous à peu près le même temps à essayer sous la couette de déclencher une grossesse. Ça ne va rien changer qu'on ait 40 ou 120 millions. Quand on passe en dessous des 20 millions, c'est là où ça va mettre un petit peu plus longtemps avant de réussir à déclencher une grossesse. Et en dessous de 3 millions, l'OMS considère qu'on n'arrivera pas à procréer sans une assistance médicale.
D'accord.
Le contraceptif, la compose, il est à moins d'un million de spermatozoïdes mobiles par millilitre de sperme. D'accord. Donc on prend une précaution supplémentaire par rapport au seuil d'infertilité défini par l'OMS. D'accord.
Par l'OMS.
Quand on va arrêter de porter le dispositif, la spermatogénèse, elle ne va pas reprendre en un claquement de doigts et tout de suite à fond. Ça va remonter plus ou moins vite d'une personne à l'autre. Donc, on va passer par 4, 10, 15 millions. Et donc, pendant cette transition-là, on va être un peu moins fertile, mais fertile quand même. C'est pour ça qu'il faut considérer tout de suite qu'on redevient fertile.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a quand même une chance de potentiellement être fécond, donc vaut mieux, si ce qu'on cherche c'est à ne pas procréer, faut mieux pas prendre de risque et passer sur un autre mode de contraception.
Et même si on veut procréer, comme je disais, il vaut mieux laisser passer ces 3 mois dans l'attente.
Pour être sûr d'avoir le...
Pour être sûr d'avoir le bon ADN. Ouais, ça.
Ouais, super. On va se parler un peu de chirurgie avec Fabrice, qui lui a connu un autre mode de contraception, enfin qui connaît un autre mode de contraception, qui est la vasectomie. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout, comment se prend la décision, et puis après comment ça se passe, parce que c'est le grand mystère pour moi.
Alors en fait, à la base, l'envie de faire une vasectomie, il y avait un peu un côté très personnel qui était vraiment de l'idée de fermer la boutique, tu vois, de dire ok, en fait c'est bon, j'ai 2 enfants, j'en veux plus, tu vois.
Okay.
Et donc ça date d'il y a, je sais pas, peut-être 6-7 ans, tu vois, cette envie là j'avais un de mes très bons amis en fait qui s'était remis en couple après un divorce avec une jeune femme plus jeune que lui, et en fait ça m'avait assez fasciné de voir à quel point l'enfant entre eux, alors que lui, il n'en avait plus envie, tu vois, il avait des grands-enfants. Mais forcément, c'était un sujet entre eux et c'était normal, quoi. Et en fait, je me suis dit, ok, si un jour ça m'arrive, je ne veux pas du tout vivre ce truc-là. En fait, je veux que ce soit plus un problème, tu vois, c'est-à-dire que tu vas me prendre et tu vas me prendre avec le package global qui est, en fait, je tire à blanc. Voilà, ça fait partie de moi. C'est comme ça que je suis. Okay. Donc, en fait, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la vasectomie, c'est pas vraiment une méthode de contraception, c'est plutôt une méthode de stérilisation parce que si tu le prends comme une méthode de contraception, il y a des risques, en fait. Hein. La réversibilité, elle est pas assurée du tout. Alors, je ne sais plus, il y a des chiffres, mais je ne les ai plus exactement. D'ailleurs, je ne les ai jamais fait vraiment. Je ne me suis pas dit, je vais faire une vasectomie. Dans l'idée, je vais passer à nouveau sur le billard pour l'inverser. Ça ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Mais je pense que c'est possible, mais il ne faut pas trop compter dessus. En tout cas, c'est ce que le chirurgien m'avait dit à l'époque. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, la loi t'oblige dans ce genre de pratique à avoir un premier rendez-vous avec un chirurgien urologue et à respecter un délai de 4 mois de délai de réflexion légal entre le moment où tu vas ton premier rendez-vous et le moment où tu peux effectivement passer sur le billard pour une raison simple qui est qu'en fait, comme c'est une stérilisation, on veut à tout prix t'obliger à vraiment réfléchir. Alors, je trouve que c'est intéressant, sans doute, pour, je pense, et notamment peut-être pour des gens qui n'ont pas encore eu d'enfants, tu vois, mais j'ai un peu la sensation que quand tu arrives et que tu as, 40 balais et que tu dis, j'ai eu 2 enfants, il y a un petit peu un côté un peu infantilisant. Et en fait, d'autant plus que, en fait, ces fameux 4 mois, je pense que ça m'a appuyé sur un truc fou, c'est qu'en fait, j'ai eu, avec le recul, j'ai eu cette trouille. J'ai eu peur, en fait, tu vois, de passer sur le billard. Le mec m'a montré exactement où il allait inciser, etc., etc., ce qui est vraiment cool en soi. Mais vraiment, sur le moment, je me suis dit, ok, c'est donc, il va littéralement me couper sur le côté des testicules, n'est-ce pas? Il y a un côté un peu impressionnant. Alors que je pense, avec le recul, que si J'y étais allé, bah, aux US par exemple, ça se passe comme ça. Tu te pointes et en gros, ça dure un quart d'heure. Vraiment, c'est super rapide l'intervention. Mais tu te pointes, tu fais comme si tu te faisais un détartrage, quoi. Tu vois, tu repars de là, c'est nickel. Je pense que si ça m'avait, comment dire, s'il m'avait fait ça, j'aurais pas attendu. Je pensais avoir attendu 2 ans, mais en vrai, j'ai vraiment réfléchi. J'ai attendu 4 ans entre le moment où j'ai décidé d'y aller, enfin, entre mon premier rendez-vous et le moment où j'ai décidé d'y aller. Et en fait, entre-temps, il s'est passé un truc intéressant, c'est que j'ai découvert, notamment sur Mademoiselle, tout l'aspect de charge mentale autour de la contraception. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, ça peut aussi être l'occasion de partager avec ma femme cette charge de la contraception où elle aura pris toute cette charge-là pendant, on va dire, la première moitié de notre vie. Pourquoi pas, une fois que les enfants sont terminés, se dire « bon, let's go, on y va, quoi, c'est à mon tour de prendre la suite. » En fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai fini par y aller aussi, parce que sa gynéco, en fait, elle en parlait tous les ans à sa gynéco avant de parce qu'elle portait un stérilet. Elle en parlait tous les ans à sa gynéco. Et sa gynéco, je pense, vraiment la dernière année, elle lui a dit un truc du style « bon, j'imagine qu'on compte pas sur monsieur pour la vasectomie. » Et en fait, elle m'a raconté ça. J'ai un peu été piqué au vif en me disant « putain, mais c'est ok, mais c'est vrai que je laisse traîner ce truc. » Alors, la première année, c'était pour plein de bonnes raisons. J'avais vraiment d'autres choses à faire que d'y aller. Alors qu'en fait, en plus, avec le recul, vraiment, c'est tellement rien du tout que j'aurais juste dû dire « ok, tu prends rendez-vous tel jour, telle heure pour dans 4 mois et puis voilà, comme ça c'est fait, quoi. » Mais je sais pas, j'avais vraiment cette appréhension. Et donc ouais, au final, j'ai décidé fin d'année 2018 de prendre rendez-vous pour début d'année 2019. Donc en gros, début février 2019, je suis passé sur le billard. Mais en fait, c'est quand je dis passer sur le billard, vraiment déjà c'est local. Donc c'est une anesthésie locale, tu te pointes comme si tu allais te faire faire un détartrage ou que tu allais te faire mettre un plombage sur les dents, quoi. Alors certes, c'est un peu plus, tu vois, il met un champ stérile, etc. Je sais pas si tu as lu, j'ai écrit un article sur Rocky, je sais pas si tu l'as lu, Cédric, mais
je ne l'ai pas lu.
C'est assez étonnant, en fait, parce que donc tu te retrouves avec une infirmière qui est en train de te badigeonner la bite de bétadine, si tu veux, et elle, d'un autre côté, elle est vraiment dans ce truc de « alors comment ça se passe ? Vous êtes venu comment ? Vous êtes venu en voiture ?» ou machin. Tu te dis « bon, c'est étrange, vraiment, comme sensation. » Après, le chirurgien se pointe, et vraiment, il y en a pour un quart d'heure. Donc déjà, l'idée de se faire piquer les couilles, c'est quand même un truc un peu particulier, si tu veux. Mais bon, en fait, c'est une piqûre, tu vois. Donc, il te dit, respire un grand coup, 1, 2. En fait, il me dit, je pique à 3. Et en fait, ce connard-là, il pique à 2, bien sûr. Le truc après, c'est qu'effectivement, je l'ai un peu senti. Comment dire, une couille sur deux, c'était nickel, vraiment. La deuxième couille, c'était plus tendu parce qu'en fait, je savais qu'il allait me refaire exactement la même chose de l'autre côté, tu vois. Et je pense que l'appréhension est montée. Ça m'avait fait exactement pareil avec les yeux. En fait, je m'étais d'abord fait opérer de l'œil droit et puis après de l'œil gauche. Et en fait, sur l'œil gauche, j'avais une appréhension en sachant un petit peu où j'allais, quoi. Et en fait, après coup, le chirurgien m'a demandé si ça valait la peine de faire une chirurgie, une anesthésie générale. Ce qui est une vraie question, en fait, parce que quoi qu'il arrive, c'est un truc... Je pense que tu peux pas ne pas te souvenir de ce qui s'est passé, tu vois, ce jour-là.
Ça, j'imagine bien que tu t'en rappelles, ouais.
J'ai eu un peu ce truc de, est-ce que j'aurais préféré ne pas me souvenir de ce que ça fait, en fait ? Parce que lui, il me dit, ça a un peu vous tiré dans le ventre. Alors moi, clairement, non, je lui disais, non, en fait, ça me tire pas dans le ventre, ça me tire vraiment dans les couilles, quoi. Je pense qu'on a aussi... toute une forme de sacralisation des testicules, tu vois, il faut pas y toucher, c'est très fragile, etc. Et en gros, moi je suis sorti de là donc nickel, vraiment. Pendant 24 heures, j'ai rien senti, vraiment, c'était très cool. J'ai eu un tout petit bleu, en fait, au niveau de chaque côté, parce que au niveau de chaque incision. Mais en fait, c'est après ces 24 heures-là que ça a commencé à se réveiller. Et effectivement, j'avais une gêne, en fait, pendant, on va dire, pendant une grosse semaine, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu... Mm-hmm. Mais peut-être c'est juste psychosomatique, j'en sais rien, mais tu sais, tu as cette sensation-là où si tu te tiens droit, ça te tire dans les couilles. Alors que si tu marches un peu plus plié comme ça, ça va nickel.
Ouais, c'est peut-être ton esprit qui te joue des tours, hein, qui sait. Mais...
Je pense en plus avec le recul, hein, tu vois, parce que l'autre truc, c'est que j'ai perdu mon associé en fait une semaine plus tard, qui est mort d'un arrêt cardiaque, donc vraiment une mort très rapide et soudaine et pas du tout prévue. Et d'un coup d'un seul, en fait, j'avais plus mal aux couilles, tu vois, parce que j'avais d'autres choses à ce moment-là. Donc je pense vraiment que c'était psychosomatique, tu vois, parce qu'après ça a été nickel, vraiment c'était cool. Donc voilà, et en fait, depuis, ce qu'il faut que tu fasses après, c'est que tu fasses 3 mois plus tard, il faut que tu fasses un spermogramme. Et normalement, après les 3 mois, en fait, si ton spermogramme se révèle être négatif, ou en tout cas suffisamment faible en spermatozoïdes, ça veut dire que l'opération a marché et que tu peux vaquer à tes occupations sans plus jamais faire d'enfant. Voilà.
C'est magnifique.
Voilà.
Alors ça m'intéresse aussi parce qu'en fait, moi, pour tout vous dire, une fois qu'on sera OK avec ma compagne sur le fait qu'on a le nombre d'enfants qu'il faut, c'est quelque chose que je veux faire. Mmh. Parce que même si j'ai énormément peur des aiguilles et des chirurgiens, non, mais c'est ça. Les mecs, des fois, c'est pas possible. Hein. Mais il y a une autre question et que je te poserai aussi après, Arwan, pour le coup, parce que là maintenant, j'ai d'autres questions qui sont plus. Qu'il faut poser, je pense, parce que d'autres personnes peuvent les poser, enfin peuvent ne pas oser les poser. C'est niveau érection, niveau éjaculation, comment ça se passe, Fabrice, si tu peux commencer à répondre. Est-ce que tout marche bien comme avant?
Tout fonctionne à merveille. Et je pense que c'est l'un des trucs aussi qui fait peur sans doute au mec, c'est qu'en fait ton sperme en fait ne change pas du tout de à quoi il ressemble d'habitude. C'est juste il y a plus. Alors je sais plus combien c'est genre 0,8% du sperme contient les spermatozoïdes, en fait, et donc tu n'as plus cette part là mais que qui c'est invisible à l'œil nu, quoi, tu vois. Alors après j'ai pas inspecté
mon sperme, pas allé compter
à la loupe comme ça, tu vois, j'ai pas fait ça, mais en fait non, il y a pas de problème particulier. Peut-être pendant, tu vois, pendant quelques semaines après l'opération, j'avais une petite gêne et tout. Mais après, moi, ça m'a fait découvrir un truc aussi fou, c'est que je ne connaissais pas et qu'il faut vraiment partager au plus grand nombre. C'est que, et là, j'ai découvert ça à 40 ans, mais quelle andouille. En fait, je me suis dit que c'était important de sécher mes fils, tu vois, parce qu'en fait, tu as des fils qui finissent par tomber tout seuls au bout de 15 jours, je pense. Ouais. Et en fait, pour sécher mes fils, j'ai découvert le sèche-cheveux sur les couilles, qui est vraiment le meilleur truc au monde. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas découvert ça auparavant, mais vraiment, je vous le conseille. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, de votre côté, mais moi, je ne savais pas. C'est trop bien. C'est fabuleux. N'hésitez pas. En sortant de la douche, un petit coup de sèche-cheveux sur les couilles, franchement, c'est la belle vie.
Mais en plus, c'est clair qu'au niveau hygiène, ça doit en plus être une bonne pratique, je pense.
Exactement.
Et puis, si en plus, c'est agréable, pourquoi pas. Erwan, de ton côté, avec le jockstrap, comment ça se passe niveau érection, éjaculation?
La méthode thermique ne perturbe pas le système hormonal et du coup, on conserve la même libido. D'ailleurs, c'est pour la même raison qu'au niveau de la vasectomie, on n'a pas de difficulté puisque les testicules continuent de fonctionner et donc de produire les mêmes hormones qui continuent de circuler dans tout le corps par le système sanguin. Avec la méthode hormonale, où là on va utiliser une injection d'un dérivé de testostérone, ça peut avoir comme effet une augmentation de la libido. En tout cas, voilà, il n'y a aucune de ces méthodes qui ne nuit ni à la libido, ni à la capacité à bander, ni voilà, rien de tout ça. Alors tout à l'heure, Fab, tu parlais de la quantité des spermatozoïdes dans le sperme. Alors ça dépend d'une personne à une autre et de tout un tas de facteurs, la fatigue, le stress, l'alimentation, etc. Mais effectivement, les spermatozoïdes, c'est de l'ordre de 1 à 2% du volume du sperme. Le reste, ce sont des liquides qui sont produits par la prostate pour les deux tiers et les vésicules séminales pour le troisième tiers. Donc, On peut intervenir au niveau des testicules, ça ne va pas changer fondamentalement la composition et le volume de l'éjaculat.
Parce que c'est très
D'accord.
important pour les mecs d'avoir du sperme, tu vois, un sperme qui soit volumineux.
Et
Ça
on peut dire
prend
merci au
moderne.
porno.
Et voilà,
On peut dire merci au porno mainstream.
du coup, ça ne
C'est
détecte
clair.
rien, la consistance, la couleur, l'odeur, etc. C'est imperceptible, il faut un microscope pour pouvoir faire la différence.
Ouais, mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est dans l'imaginaire. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça va faire de moi? Et pour le coup, autre question encore que je pose à vous deux, dans le sens inverse, maintenant. Alors, la perception peut être différente parce que toi, j'ai bien noté la différence entre contraception et stérilisation que j'avais pas noté, tu vois, avant. Et je trouve ça très intéressant. Toi, Erwan, est-ce que tu te sens moins mec avec tous les grands stéréotypes sociétaux qu'il peut y avoir derrière, hein. Je parle pas de toi, ta perception de ta masculinité, on pourra faire un autre épisode là-dessus. Mais est-ce que toi tu te sens moins mec, moins est-ce que y a, ça change quelque chose vis-à-vis de ça? Ou est-ce que tu as une crainte vis-à-vis de ça?
Moi, de toute façon, justement, cette assignation à une à la masculinité et même cette course vers une masculinité hégémonique, là, le virilisme, c'est un truc qui, voilà, qui m'a toujours pesé. Du coup, je suis pas la meilleure personne pour parler de ça. En tout cas, peut-être que justement, le fait que c'est pas quelque chose à quoi je sois attaché a fait que pour moi, ça a été particulièrement hyper simple. Et même, pour moi, c'est justement, c'est important de pouvoir remettre en question ces injonctions à ce virilisme. Et je me sens justement, c'est une manière d'affirmer une autre manière de vivre mon corps, ma sexualité, mes interactions sociales, etc. Il y a d'autres manières de faire que ce stéréotype pesant, quoi. En tout cas, je voulais revenir vite fait sur l'histoire de la stérilisation. Il est bien écrit dans la loi de 2001, la loi Aubry, qu'il s'agit d'une stérilisation à visée contraceptive. Et ça, c'est vraiment un truc franco-français de considérer que la stérilisation n'est pas une contraception. C'est une contraception définitive, certes, mais c'est une contraception.
Mais c'est une contraception,
Parce que
ouais, puisque ça a
c'est un
été.
choix. D'accord?
C'est ça.
À partir du moment où on fait le choix de ne plus procréer, c'est de la contraception, que ce soit définitif ou
Ok.
temporaire.
Bah d'ailleurs, tu signes une décharge, hein, tu vois, auprès du chirurgien et tout. C'est encadré, quoi, tu vois.
Ouais,
Histoire de dire que tu peux pas te retourner contre lui en disant, oh, il m'a opéré
Il
contre mon
m'a
gré.
coupé les couilles et je voulais pas, en fait. Et toi alors, pour le coup, Fabrice? Est-ce que tu te sens toujours comme un vrai mec, un bonhomme, un gars qui en a, tu vois?
Ah ouais, alors ça, bon, t'imagines bien que
Alors, du
vraiment.
gros, alors, attention,
Alors.
on sait très bien, les gens qui nous écoutent savent très bien que tous
Oui.
ces stéréotypes à la con que je suis en train de dire, c'est pas du tout à l'ordre du jour, hein, dans le
Ah
truc,
oui.
mais c'est aussi pour s'ouvrir à d'autres mecs qui pourraient nous écouter et qui sont peut-être très, très dans ces stéréotypes pour leur montrer que ça va, les mecs, et que nous aussi, on est des mecs.
En fait, enfin, je trouve qu'il est temps de se débarrasser de la vieille image du mec qu'avait mais mon père, en fait. Tu vois, mon père aujourd'hui, il a 75 ans, il a grandi là-dedans, avec les Lino Ventura, les Jean Gabin, les bonhommes, quoi, tu vois. Et que ce truc-là, il est un peu éculé. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de réinventer justement une nouvelle forme de masculinité. Et pour moi, l'un des trucs forts de la masculinité, c'est aussi, enfin, d'une manière générale, c'est une valeur forte d'avoir ce truc de responsabilité, de courage, de prendre sa part du truc. Et bah, pourquoi pas l'adapter à la contraception, en fait. C'est pas parce que ça fait justement, bah, comme on disait tout à l'heure, ça fait des centaines, des millénaires que la contraception est un truc de femme, qu'aujourd'hui, en tant que mec, on peut pas se dire, bah, pourquoi pas réinventer une nouvelle forme de contraception et de prendre en tant que gars, en tant que bonhomme, une part, sa part à soi aussi. Même si, de mon point de vue, j'ai toujours ce truc où je me dis, en tant que meuf, est-ce que je laisserais la possibilité au gars de prendre cette part-là? Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, ça finit par être toi, en tant que femme, qui paye le prix dans ton corps, si tu veux. Nous, on est toujours très, très extérieur. C'est une vraie question aussi sociétale qui mérite d'être posée, quoi. Mais non, pour répondre à ta question, moi, ça fait 25 ans que je bosse à destination des femmes et des jeunes femmes d'une manière générale. Donc, si tu veux, tout ce truc de bosser, tu vois, d'avoir cette image du mec... c'est un truc qui est un peu depuis que je suis tout jeune, quoi, tu vois, ça me perturbe un petit peu, je ne comprends pas. Et au contraire, je trouve que c'est cool pour moi de me dire, ok, j'ai aujourd'hui une vasectomie et en fait, ça me permet de pouvoir prendre ma part de la contraception, quoi.
J'ai une dernière question, Erwan aussi, parce que tu l'as évoqué très brièvement tout à l'heure. Il y a une autre méthode qui existe, qui est la méthode hormonale, c'est ça ? Je sais que ce n'est pas notre sujet prioritaire, mais bon, si on pouvait faire un petit tour de cette méthode brièvement.
En quelques lignes, en maintenant un taux élevé de testostérone dans le sang, on fait croire au cerveau que... Alors en fait, c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais on va faire simple, on va dire le cerveau. On fait croire au cerveau... fait croire au cerveau que les testicules sont en train de produire vraiment beaucoup de spermatozoïdes, d'accord ? Et du coup, puisque le cerveau a cette information-là, ben, il leur envoie l'information d'arrêter de produire, d'accord ? Donc, ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on va, par des injections intramusculaires hebdomadaires, maintenir un taux élevé de testostérone qui bloque la production de spermatozoïdes. Ça marche pas pour tout le monde parce qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent. On sait que ça marche quasi à 100% sur les populations asiatiques, africaines. Ça marche à 60% sur les populations européennes. Mais il y a des gens, voilà, chez qui ça marche très bien. Alors, pour le moment, cette méthode, elle est peu prescrite en France. Elle est validée. Alors, l'OMS valide, reconnaît ce protocole qui a été testé depuis 1994. En France, il n'y a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché pour cette substance. Mais il n'empêche qu'un médecin peut choisir de la prescrire hors AMM. Et voilà, ça coûte 10 € l'ampoule, donc ça fait 40 € par mois pour pouvoir bénéficier de cette méthode. Les risques d'effets secondaires sont les mêmes que les méthodes hormonales pour les femmes, et je parle bien de risques d'effets secondaires parce qu'il y a des gens qui vont les percevoir beaucoup, d'autres qui ne vont pas les percevoir du tout. Donc là aussi, c'est vraiment très dépendant, et tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Les petites différences, c'est que la prise de masse, si on a une activité physique, ça va être de la masse musculaire qui va être prise plutôt que de la masse graisseuse. Et puis, la libido qui va avoir tendance à augmenter, et ça, en général, ça fait sourire. En fait, les retours d'expérience qu'on a, c'est que c'est pas forcément évident à gérer dans la relation. Donc, il y a un petit calage à faire au début pour prendre conscience de ça et apprendre à le réguler, quoi.
C'est une bible, Erwan. Merci beaucoup. Si je devais résumer, moi, ce que je comprends, c'est que l'important, alors à part pour la vasectomie, où clairement c'est un choix qui est quand même très définitif, pour les autres méthodes, l'important, c'est d'essayer de se faire accompagner, de se faire confiance, de communiquer aussi avec sa partenaire. C'est vraiment l'essentiel, c'est qu'on peut essayer, quoi, on peut tester et pas avoir peur de quoi que ce soit, en fait.
Et si on a peur, voilà, il y a des gens qui utilisent déjà ces méthodes et qui peuvent déconstruire ces a priori qu'on a. Nos partenaires qui aujourd'hui prennent en charge la contraception, elles ont à faire face à des difficultés qui sont, à mon avis, plus importantes que ce que nous on a à faire quand on choisit de s'en occuper.
Mais carrément. Et ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Moi, je ressors de là en me disant, bon, alors attends, faut que je m'achète une machine à couture, faut que j'aille vite vous voir vers Toulouse, c'est ça ? Erwan, vous êtes vers Toulouse, Garcon ?
Alors par exemple, donc nous on a créé l'asso à Toulouse, mais il y a une antenne là qui s'est mise en place à Lille, donc Garcon 59 existe. Et là, au cours de la rencontre nationale qui vient d'avoir lieu là, du 25 au 27 septembre, on a proposé aux gens que ça intéressait de venir voir ce qu'on faisait, comment on le fait, Et donc, il y a des gens qui sont venus apprendre à fabriquer ces dispositifs et puis aussi avoir les informations qui permettent d'accompagner correctement les gens qui viennent. Forcément, en un week-end, c'est trop court, mais voilà, on a posé des bases. Et puis, avec les moyens de communication qu'on a et le fait que je me déplace facilement, on est en train de multiplier ces initiatives locales. Donc, si vous avez envie que ça existe par chez vous et qu'il n'y a rien, eh ben, il suffit de nous contacter, de nous dire que ça vous intéresse, que vous avez envie de vous rendre un petit peu disponible, non seulement pour que vous puissiez y accéder, mais également les personnes qui vivent dans la même ville que vous. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à faire avancer cette problématique.
Et donc Garcon, on vous retrouve sur Instagram?
Alors, on a un site internet, garcon.link, okay. Un compte Instagram, une page Facebook, toujours le même nom.
Ok, super. Nickel.
Tu mettras dans les notes de l'épisode, Cédric.
Oui, on mettra tout ça dans les notes. Et écoutez, les gars, je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Donc, merci beaucoup, Erwan. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous laisse dire un petit au revoir et puis on va se quitter là-dessus.
Merci.
Merci pour l'invitation.
Au plaisir.
Merci, les gars.
Quand vous voulez.
Au plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.